ou à Mame de la gare, par Franck Nimmo. La nature punit toujours ceux qui se préservent, nous avertit Marc Vérillotte, ancien membre du RAID pendant 20 ans, de 1998 à 2018, dans son ouvrage Au cœur du RAID, écrit avec Karim Ben Ismail et publié en 2022. Un ouvrage dont j'ai commencé la lecture alors que je n'ai pas terminé ma relecture de Franz Portrait Fanon d'Alice Cherki, paru en 2000, ainsi que la bande dessinée Franz Fanon, réalisée par Frédéric Siriez et Romain Lamy, et paru, elle, en 2020. Après avoir connu plus de 3 semaines de grève dite dure dans mon service, grève fantôme qui s'est terminée il y a quelques jours, en obtenant plusieurs réparations et avancées, et après avoir beaucoup travaillé, entre autres de nuit, comme beaucoup, je me sens fatigué en ce début d'année. Comme beaucoup aussi, j'ai appris cette semaine l'officialisation du recul du départ de l'âge à la retraite, qui est passé de 62 à 64 ans, ainsi que la nouvelle de la grande manifestation prévue dans 6 jours, ce 19 janvier, pour protester contre cette décision annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne, soutenue en cela par le président de la République Emmanuel Macron, réélu l'année dernière pour son deuxième mandat. La phrase de Marc Vérillotte, ancien membre du RAID, est bien sûr à prendre avec des pincettes. Dans ce contexte historique, économique, social et culturel qui est le nôtre. La sienne se réfère à une compétition de judo, à un très haut niveau, pour laquelle, rétrospectivement, il estime s'être trop ménagé lors de sa préparation pour se donner les moyens de gagner la finale. Marc Vérillotte se dit en effet qu'il aurait dû la prendre, cette douche glacée à laquelle il avait pensé avant la finale de cette compétition de judo en Géorgie, alors qu'il faisait encore partie de l'équipe de France de judo. Si nous prenons souvent les sportifs de haut niveau ou des professionnels qui, comme Marc Vérillotte, dans leur domaine font partie de l'élite, féminine ou masculine, c'est parce que ceux-ci nous inspirent ou peuvent nous inspirer pour les usages ou les défis de notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne peut être usante, contraignante, insatisfaisante ou décourageante. Alors qu'il suffit parfois de peu, pour commencer à se sortir du malaise dans lequel on s'est peu à peu enlisé. Et cette élite ou ces modèles que nous regardons nous donnent l'exemple afin de nous dépêtrer de cet enlisement, isolement. Car si nous, la majorité, la plupart d'entre nous, nous nous embourbons et piétinons, si nous, nous nous étourdissons et nous épuisons dans des existences exsangues, l'élite a pour elle de savoir survoler les obstacles, mais aussi de se survolter devant eux. L'élite est un exemple ou un visage qui nous ressemble, ou que nous connaissons et que nous essayons de suivre à notre mesure. Si le fait de beaucoup travailler ou de beaucoup donner de soi peut user, je crois aussi que l'on s'use d'autant plus rapidement et d'autant plus durablement lorsque l'on vit et fait par habitude, de manière systématique, les mêmes erreurs. Nous avons la capacité de reproduire les mêmes gestes, les mêmes façons de penser et les mêmes choix pendant des années, en nous contentant du fait de les exécuter. Mais nous avons aussi une certaine capacité à pouvoir les imposer autour de nous. À moins de nous apercevoir de nous-mêmes que quelque chose cloche, même si ça roule ou marche, ou d'avoir quelqu'un dans notre entourage capable de nous prévenir, quelqu'un que nous sommes disposés à entendre, il nous faut souvent un symptôme, une rupture, un accident ou un signal d'alarme pour percuter, pour voir que sur notre belle chaîne de montage, nous avons laissé se développer quelques erreurs qui nous éloignent plus qu'elles ne nous rapprochent de notre véritable projet. À condition bien sûr que nous soyons encore capables de voir et de réagir, et s'il n'est pas trop tard. Car si la nature punit toujours ceux qui se préservent, comme l'annonce Marc Vérillotte, il est étonnant de voir comme nous pouvons très facilement être très performants et grandement dévoués en tant qu'inlassables bourrins, continuant de labourer dans le même champ de nos mines antipersonnelles. À moins d'avoir des projets en rapport avec cette période, les soldes qui ont commencé cette semaine vont assez peu nous aider à lever le pied, et le lieu où nous résidons peut avoir une incidence sur les moyens dont nous disposons pour prendre le temps de reprendre notre souffle. Mais encore faut-il avoir une certaine estime pour ces moyens. La ville d'Argenteuil où j'habite est une péripétie. Une partie d'elle se désiste, une autre partie est une pépite, et l'autre, à mon avis, décline. Après plusieurs années dans ces murs et ces rues, Ce constat est pour moi plutôt déprimant. À moins d'avoir bien su choisir son quartier ainsi que son lieu de travail par rapport à elle. Pourtant, je n'ai pas envie de tirer d'elle un portrait plus délabré qu'il ne l'est, d'autant qu'un certain nombre de beaux ou de très beaux quartiers à Paris ou ailleurs font selon moi rêver, principalement parce qu'ils nous sont étrangers ou interdits, mais aussi parce que l'on ne connaît pas beaucoup celles et ceux qui s'y trouvent. Et puis, on l'aura compris, ce que je dis aujourd'hui d'Argenteuil s'applique à ce que je suis aujourd'hui, puisque cette ville, d'une façon ou d'une autre, me ressemble. Il suffit parfois de peu pour commencer à se sortir du malaise dans lequel on s'est peu à peu enlisé. J'ai déjà écrit cette phrase. C'est aussi une situation que j'ai déjà vécue où il suffit quelquefois de sortir un peu de chez soi, de traverser deux ou trois rues pour qu'une rencontre ou une expérience nous procure un nouvel élan et nous éloigne de cette perspicacité défaitiste et dépressive dont un certain nombre de nos actions semblaient devenir le moteur. Près de chez moi, il se trouve un hammam où je suis déjà allé une ou deux fois. Il y a 2 ou 3 ans. Plusieurs fois par semaine, je passe devant ce hammam. Plusieurs fois par semaine aussi, je passe plus d'une heure dans les transports en commun afin de me rendre à tel ou tel endroit. Il peut s'agir du travail ou d'une autre activité responsable, justifiée, incontournable, ou d'une sortie de loisir, comme demain soir pour aller voir Sarah Murcia en concert à la Maison de la Radio. Vous ne connaissez pas Sarah Murcia? Je la connaissais pas non plus il y a quelques mois. J'ai déjà d'abord vu une photo en noir et blanc d'elle au Triton, en me rendant à l'exposition des tableaux de Marie-Jo, une ancienne collègue infirmière qui avait pris sa retraite quelques mois plus tôt. Pour découvrir Sarah Murcia, je vous propose de la voir en duo avec Rodolphe Burger, lorsqu'ils ont tous les deux repris le titre Billie Jean de Michael Jackson. Billie Jean, Michael Jackson, c'est loin. J'ai de la chance pour aller demain soir au concert de Sarah Murcia. La gare est proche de chez nous, moins de 5 minutes à pied. Cette chance tient aussi au choix que nous avons fait de nous installer il y a 10 ans près de la gare. Même si je passerai sans doute plus de temps dans les transports en commun demain soir pour aller au concert que pour y assister à la Maison de la Radio dans le 16e arrondissement de Paris. Le hammam est plus proche de chez nous que la gare, mais évidemment, je me rends bien plus souvent à la gare qu'au hammam. Et évidemment aussi, Sarah Murcia et tous les autres artistes ne font pas encore leur concert dans un hammam. Malgré cette désillusion, ce matin, un peu avant 7h30, je suis retourné au hammam. Car nous avons la chance à Argenteuil d'avoir un hammam qui ouvre dès 7h du matin. Il est ouvert tous les jours, sauf le mardi. C'est 15,30 € maintenant. Non, 15 € tout court. Le prix a augmenté à cause du gaz, s'excuse le gérant qui me reçoit. Régulièrement, j'ai pu le saluer chaque fois que je l'avais croisé dehors, en passant devant le hammam. Alors que j'emmenais ma fille à l'école ou au centre de loisirs. Auparavant, l'entrée coûtait 12 €, thé à la menthe inclus. Le hammam de la gare est un hammam simple et propre, peut-être rustique, peut-être décati, mais il a sa clientèle. Il est courant de voir une caisse garée à cheval quelques minutes sur le trottoir en face de son entrée. On pourrait penser au braquage de la caisse, c'est plutôt de la débrouille. Car trouver une place où se garer dans le centre-ville d'Argenteuil est hasardeux, et peut-être même miraculeux. Plusieurs mois sans pratiquer le karaté à Bagnolet avec maître Jean-Pierre Vigneault, plusieurs mois sans pratiquer l'apnée désormais à Villeneuve-la-Garenne avec le club Subaqua Club de Colombes, aujourd'hui exilé car la piscine de Colombes est désormais en travaux pour les Jeux Olympiques de 2024, plusieurs années sans faire de théâtre, plusieurs années aussi sans pratiquer le massage bien-être, plusieurs semaines sans écrire un seul article pour mon blog, lequel a connu quelques ratés techniques durant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'Eddie, l'ami photographe, l'ingénieur informatique, le créatif, n'accepte gentiment de se rendre disponible plusieurs heures à la fin de l'année dernière dans son studio afin de m'aider avec WordPress. De temps à autre, je me rappelle la première fois où j'ai rencontré Eddie, c'était Place d'Italie, c'était pour interviewer Reda Kateb pour son rôle dans le film de Léa Fener, qu'un seul tient et les autres suivront. C'était après que Reda Kateb et jouer, se soit fait connaître au cinéma dans le film Un prophète, où je joue le rôle du gitan. Du temps est passé depuis cette époque, c'est l'époque Brésil. En ce début d'année 2023, c'est-à-dire plusieurs années après tout ça, et depuis plusieurs jours, j'ai l'impression de végéter. J'ai l'impression que mes chakras sont bouchés, pour employer les termes tenus par un ancien collègue infirmier, formé au massage bien-être bien avant moi et qui avait commencé une formation de shiatsu qu'il avait arrêtée. Une formation qui m'avait un moment attiré, sauf que je n'ai rien fait de concret à ce sujet. C'était avant le karaté, avant l'apnée. Hier soir, je me suis dit que le hammam de la gare était un très bon moyen de commencer à arrêter de circuler dans le mauvais sens, et que j'avais trop attendu pour y retourner. Lorsque hier soir j'ai effectué l'effort de me rendre en voiture jusqu'à la piscine de Villeneuve-la-Garenne, afin de pouvoir renouer avec la vie sociale du club à l'occasion de la galette des rois offerte par le club, j'ai bien vu que j'encaissais au ralenti lorsque l'on me parlait. Alors que tout le monde, débordait de tonus et trouvait cela parfaitement normal. Cela n'avait rien à voir avec la fève. Je n'ai rien bu, rien touché hier de liquide, gazeux ou de solide au club. J'avais déjà mangé suffisamment de parts de galettes de roi au travail ces derniers jours. Et puis, depuis quelques jours, on ne voit que ça. Des galettes, des galettes, des galettes de roi, des couronnes, des couronnes, des couronnes, des fèves, des fèves, des fèves, des fèves. Bientôt, ce sera autre chose. Ce matin, en me levant un peu avant 6h30, j'ai fait mes étirements et des abdos, suivis de quelques galipettes avant et arrière. Après un thé en sachet, bu dans une de ces tasses ramenées du Japon en 1999, ce pays, plus loin que le hammam, où je ne suis pas retourné, contrairement à ce que je m'étais dit à l'époque, je descends les escaliers de l'immeuble, après avoir salué ma fille, qui va partir à l'école, et ma compagne, en laissant derrière moi toute cette panoplie de tentacules qui nous met aux prises avec de multiples fausses urgences et autres bienveillantes addictions et soumissions. Carte bancaire, internet, téléphone portable, écran en tout genre, baladeur, montre. Je n'existe plus pour le monde connecté, moderne, efficace, virtuel, instantané, lyophilisé et civilisé. Je n'existe plus. J'ai même disparu des réseaux sociaux. Nouvelle zone zérogène, dont les milliards de connexions se sont beaucoup plus vite développées ces dernières années que les forêts qui disparaissent après avoir d'abord disparu de notre regard. Mais étant donné que je ne suis pas tout à fait l'homme invisible pour les autres dans la rue, je me suis tout de même habillé avant de partir de chez moi. J'ai pris mes clés d'appartement, comme de quoi me changer et me laver, et des espèces pour payer. 7h30 pour arriver au hammam, ce n'est pas si tôt que ça. C'est beaucoup moins tôt qu'aux 6h ou 6h30. Heure où, au dojo Tenshin, école Itsuotsuda de Régis et Manon Soavi, le père et la fille, tous les jours de la semaine, des pratiquants se retrouvent, se forment. Et le week-end aussi, à 8h. 7h30, c'est aussi beaucoup moins tôt, sans aucun doute, que l'heure à laquelle Maître Léo Tamaki débute ses journées et ses marathons de voyage et de stage. C'est sans doute aussi plus tard que l'heure à laquelle Maître Jean-Pierre Vigneault démarre ses journées, ainsi que Yves, le responsable de la section apnée de mon club, qui ne vit pas de cette activité et qui a aussi un emploi et une vie de famille. Et j'allais oublier. 7h30, c'est aussi beaucoup moins tôt que toutes ces personnes qui travaillent très tôt ou qui finissent leur travail de nuit. Des personnes auxquelles il m'arrive des fois de ressembler, puisque je fais aussi partie de ces personnes. Au hammam, à quelques mètres de la douche, je tombe sur un homme. En maillot de bain, torse nu, il porte des lunettes de vue. Même si j'ai laissé les miennes dans mon casier, je vois que c'est un Européen. Comme j'ai un peu oublié comment ça se passe, je l'interroge. Celui-ci me répond cordialement. J'apprends aussi qu'il va au hammam une fois par semaine. Tends-toi celui-ci, tends-toi un autre, à Barbès. Il habite à Cormeilles-en-Parisis, pas très loin en train, une ville que je connais et que j'aime bien. J'y vais quelques fois. À sa médiathèque en particulier, très bien fournie en DVD. Le hammam à Barbès fait plus hammam, me répond-il. C'est aussi un peu plus cher, 22 euros. Ici, ça fait plutôt sauna. Mais ce qui est bien, c'est que ça ouvre à 7 heures, alors qu'ailleurs, ça ouvre souvent à 10 heures ou 11 heures. Habituellement, ici, je viens plutôt le samedi matin, entre 7 heures et 9 heures. C'est très bien. Il n'y a personne. Aujourd'hui, je suis en congé. Lorsque je ne vais pas au hammam pendant une semaine, je ne me sens pas bien. C'est comme faire du sport, me dit-il. Avec mes horaires décalés et la proximité, je n'ai pas de bonne raison pour avoir ignoré aussi longtemps ce hammam de la gare. À part le fait et ma prétention d'avoir toujours eu d'autres priorités et d'être pressé. Car pour bien profiter du hammam, il faut bien avoir 2 à 3 heures devant soi au minimum. La douche est très chaude. Cela m'étonne. Celui qui m'a précédé dans le hammam me répond que c'est lui qui l'a réglé de cette façon. Un piège alors. Mais non, il ramène l'eau froide. Mes premières expériences de sauna et de hammam datent de mon adolescence, lorsque je faisais de l'athlétisme. L'eau très froide, le très chaud, l'alternance, douche froide, bain froid, sauna. Courir dehors par temps froid, faire des crosses, y compris dans la boue. C'est à cette époque que j'avais découvert ça. Je n'ai jamais gagné le moindre crosse, mais je les avais toujours finies. Plusieurs années plus tard, me voilà, je continue de suivre les mêmes principes. Ceux que l'on m'avait appris dans ce club d'athlétisme à Nanterre, mais aussi chez moi, dans ma famille. Nous entrons tous les deux dans le hammam ou le sauna, car il s'agit d'une chaleur sèche. Nous continuons encore de discuter. L'homme est devant moi en train de parler depuis à peine 2 minutes quand il me dit « Il fait chaud !» Puis il sort, ou plutôt, il se dépêche de sortir. Je m'installe et m'assieds sur la plaque de marbre, sous ce soleil de pierre, et peut-être de prière. Je pense très vite à mon travail, puis à ma campagne, dans une situation décisive. Ensuite, c'est un bombardement de pensées, un carnage. Je me dis qu'avant un acte amoureux, il faudrait d'abord aller au hammam ou au sauna, chacun de son côté, puis ensuite se retrouver. Pourquoi s'enquiquiner dans un restaurant à s'alourdir la panse en restant coincé dans des vêtements de convenance, ou à rester assis dans une salle de cinéma à se frotter les yeux avec de la 3D, alors que ce que l'on veut, c'est le plan B. Avatar de Black Panther 2, Pacific Fiction, Les Rascals, Grand Marin et d'autres œuvres cinématographiques attendront encore un peu, malgré leur très grand succès public et critique, car je suis au hammam de la gare d'Argenteuil et au summum de ma pensée. Lorsque mon guide du hammam revient, il commence à s'enduire le corps de savon noir. Puis, en me tournant le dos et en baissant un peu son maillot de bain, il me demande si je veux bien le remettre sur le dos. Je sais que cela peut se faire, mais je me dis maintenant que savonner quelqu'un peut être une pratique risquée, car je me rappelle que le hammam peut être un lieu de rencontre sociale, mais aussi de drague. Les autres risques, c'est le bruit et l'agitation. Ici, pour celles et ceux qui l'auraient imaginé, je ne pense pas du tout au coup de feu du colt du coït dans un hammam et au risque d'y être découvert, mais au fait que je vais aussi au hammam pour être au calme. Certains s'isolent dans un cloître, dans une maison de campagne. Moi, je vais au hammam, chacun ses moyens. Mon voisin ne tient pas en place. Mon voisin ne tient pas en place. Trop forte chaleur ou érection, il sort à peu près toutes les 4 minutes ou plus rapidement. Il part se doucher, puis revient après quelques minutes. Cependant, il ne m'envahit pas. S'il m'a tutoyé au départ, il s'est ensuite fidélisé à mon vouvoiement. J'estime qu'à peu près 10 minutes se sont écoulées lorsque je pars prendre ma première douche froide. Ça passe. Je retourne dans le hammam où, cette fois, j'allonge mon dos sur cette petite plage de marbre en gardant mes jambes repliées, car il n'y a pas la place pour s'étendre de tout son long. Pendant ce temps, mon voisin poursuit ses pérégrinations. J'entends le bruit de ses claquettes, mais aussi de son maillot de bain qui glisse lorsqu'il se remet debout. Ses pas accélérés, la porte poussée avec hâte quand il sort, comme s'il quittait un salon de western. À ma deuxième douche froide, je sens que je vacille un peu sous l'eau lorsque je ferme les yeux. J'ai un peu le souffle coupé lorsque celle-ci me tombe sur la tête, la nuque et recouvre mon visage. Je titube un peu en allant vers ma troisième douche froide. Entre-temps, alors que j'étais allongé, un arabe massif est arrivé. Il doit bien faire dans les 110 ou 120 kilos. Nous nous sommes retrouvés à trois dans le hammam. Un Européen, un Antillais et un Arabe. Belle mixité. Mais si l'Antillais est bien sûr indolent, il se trouve avec, d'un côté, un agité et un compétiteur. Je me dis qu'il doit souvent se retrouver ces trois catégories dans un hammam ou dans un sauna. Celui qui multiplie les expositions brèves de 3 à 5 minutes, les sprints, dans le très chaud. Celui qui prend son temps, l'endormi ou la guicheur, c'est selon. Et celui qui veut faire le maximum et, si possible, qui tient à rester plus longtemps que les autres. Peut-être que j'en rajoute. Peut-être que notre lutteur du hammam avait peu de temps devant lui. Mais cela m'a fait drôle de l'entendre s'encourager, de boire un peu d'eau à deux ou trois reprises. Comme s'il essayait de gagner une course contre l'augmentation de la température. Il avait l'air de serrer les dents, Il fallait tenir la corde jusqu'au bout et garder la position ainsi que la tête haute. Était-il satisfait de lui lorsque je l'ai entendu sortir en se ruant presque hors de la pièce, alors qu'il était en train de se faire gommer? Gommeur dans un hammam, c'est dur. Passer des heures, torse nu, dans la chaleur, à passer sur les peaux des autres. Ma quatrième douche froide est réussie. Je me sens bien sous l'eau froide. Je respire de manière apaisée. Après ça, en sortant, j'ai le plaisir de voir le thermos près du plateau qui contient quelques verres de thé. Ils sont tous retournés sauf un. D'emblée, je sais ce qui se trouve dans le thermos. Je me sers aussitôt un premier verre. C'est chaud. C'est bon. Sucré comme il faut. Je me dirige vers la salle de repos. Je cherche l'heure. 9h05, à peu près 1h30. Je crois que c'est plutôt une bonne séance pour une reprise. Ce temps dans la salle de repos est selon moi aussi important que celui passé dans le hammam et sous la douche froide. Je prends la décision absolue de m'en tenir à 3 verres de thé. J'en boirai 5. Très vite, 30 minutes passent. Puis, c'est le moment d'aller se rhabiller et de partir après avoir remercié le gérant et la dame, assise dans la cuisine derrière lui, près de la table. C'est elle qui a préparé le thé à la menthe. Près du comptoir, je vois aussi plein de canettes de soda sucré. Je dis que j'espère prendre moins de temps pour revenir la prochaine fois. On me sourit et on me salue. Je sors léger, en optant pour avoir une vraie journée de repos, pour faire une vraie sieste cet après-midi avant de retourner ce soir au karaté. Un maître comme Jean-Pierre Vigneault, 77 ans, qui prend la peine d'appeler tous ses élèves pour leur souhaiter la nouvelle année, est un maître qu'il faut aller retrouver. Même si c'est à 1 heure de transport en commun de chez soi. Même si demain matin, j'ai prévu de me rendre à Sainte-Anne, un séminaire animé par Claude Orcel sur les addictions au jeu avec la présence, entre autres, de Marc Valeur, ancien médecin-chef de Marmottan. J'attends 1 heure au minimum avant de manger. En attendant, je me mets à écrire cet article. Et évidemment, j'écris pendant plus d'une heure. Plus de 4 heures sont passées depuis ma sortie du hammam. Je ne pourrais peut-être pas aller dans un hammam une fois par semaine, comme cet homme que j'ai rencontré, mais j'aimerais bien recommencer ici et ailleurs ce genre de séance, en allant aussi me faire masser dans des lieux de massage. Bonne année 2023 et meilleurs vœux. Franck Unimont, ce vendredi 13 janvier 2023.